Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. Le pays se dirige-t-il vers un toilettage du paysage politique? En tout cas, pour la deuxième fois en un an, les autorités de transition vont évaluer les partis, vérifier qu'ils sont en règle. Seulement voilà, au sein de la classe politique, des voix s'interrogent sur les motivations réelles de cette opération. Certaines formations craignent que le gouvernement en profite pour régler des comptes. Des accusations démenties la semaine dernière sur RFI par le ministre Baouri. Alors que vous inspire cette évaluation? Faut-il s'en inquiéter? On en parle, on en débat ce matin sur RFI et le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes toujours aussi nombreux à souhaiter commenter l'actualité guinéenne. 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Amadou qui nous appelle du Niger. Bonjour Amadou.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez des questions concernant la situation économique du Nigeria?
Oui Juan, le Nigeria connaît une inflation record la plus élevée depuis 30 ans. Mm-hmm. Alors Juan, mes questions sont les suivantes. Quelles sont les causes de cette inflation galopante? Et comment cette inflation modifie-t-elle les habitudes de consommation des Nigériens?
Le mois dernier, l'inflation générale frôlait les 34%. Les prix de la nourriture ont bondi de 40% par rapport à l'année dernière. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI, ancienne correspondante de RFI au Nigeria. Quelles sont les causes de cette inflation galopante?
Eh bien, elles sont multiples. Il y a d'abord des explications structurelles, le manque d'électricité ou les routes en mauvais état qui compliquent la production et l'acheminement des marchandises. Le transport coûte de toute façon plus cher qu'autrefois avec l'augmentation des prix du diesel notamment. Mais l'économie nigériane a aussi dû encaisser le choc des réformes entreprises par le président Bola Tinubu lors de son accession au pouvoir il y a un an. Notamment la suppression des subventions sur l'essence et la dévaluation du Naira, la monnaie nationale, qui s'est effondrée. Tout ça alors que le Nigeria importe la majorité de ses produits de consommation dont l'achat doit se régler en dollars.
Et en plus, la production pétrolière est en baisse au Nigeria, ce qui a forcément un impact sur les réserves de change, les réserves en dollars de la banque centrale. Quelles conséquences donc cette inflation a-t-elle sur les habitudes de consommation des Nigérians?
Eh bien, la conséquence la plus immédiate, c'est vraiment la difficulté à se nourrir au quotidien dans un pays où plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté, parce que l'inflation est encore plus élevée lorsqu'il s'agit des produits alimentaires. Les prix de la nourriture ont bondi donc de plus de 40% en un an. Au Nigeria, c'est l'insécurité qui ravage les campagnes et qui entrave les activités agricoles. La production locale est donc bien trop faible pour subvenir aux besoins de la population. Le président Bola Tinubu a déclaré cette semaine que 60 à 70% de la production alimentaire du Nigeria disparaît à cause des mauvaises routes, des bandits et du terrorisme.
Justement, vous parlez du chef de l'État. Amadou, vous avez une question concernant la réponse politique à cette crise économique.
Oui, Juan, j'aimerais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement nigérien envisage-t-il pour atténuer cette situation?
Eh bien, depuis le début de cette année, la Banque centrale a relevé plusieurs fois son taux directeur pour tenter de maîtriser l'inflation. Malheureusement, cela ne va pas suffire. C'est en tout cas ce que prédit un rapport de la Banque mondiale publié la semaine dernière. L'institution monétaire a néanmoins salué les réformes courageuses du gouvernement nigérian et débloqué un prêt de plus de 2 milliards de dollars pour soutenir l'économie du pays. Au niveau local, certains responsables politiques organisent parfois des distributions alimentaires pour tenter d'atténuer la crise, mais cette aide semble bien maigre pour absorber le choc et l'impact de cette crise sur la vie des plus pauvres.
Et en attendant que l'inflation se résorbe et que les réformes économiques fassent effet, le président Bola Tinubu a invité la population, je le cite, à être patiente. Hein, il a pris la parole la semaine dernière. Il a reconnu effectivement que ces réformes étaient difficiles, qu'elles avaient des conséquences effectivement sur le quotidien des Nigérians. Je ressens vos souffrances, a-t-il dit, mais il demande à la population d'être patiente. Amadou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, Juan, merci. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et surtout à Lisa Fabian qui vous a répondu. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Merci, à bientôt Lisa Fabian.
Merci.
10h16 à Paris, 33 9 693 693 70. Des questions environnement, climat. Bonjour Adam.
Bonjour Juan Gomez, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi d'être avec vous Adam et avec tous les auditeurs chaque matin. Vous êtes à N'Djamena, au Tchad.
Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Monsieur Juan, cette semaine on célébrait la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Quels sont les pays africains les plus touchés par la désertification? Quelles en sont les conséquences économiques?
Alors, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, c'était lundi, comme chaque année. Elle est célébrée le 17 juin. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Chef adjointe du service environnement climat de RFI. Il faut déjà préciser, Pauline, que la désertification, c'est un phénomène qui ne concerne pas que le continent africain.
Non, et d'ailleurs, il y a parmi les membres de la Convention cadre des Nations Unies contre la désertification, 169 pays qui sont concernés. Car en fait, il faut rappeler que quand on parle de désertification, on ne parle pas que de l'avancée du désert, même si l'empiétement des dunes de sable sur la Terre peut en faire partie. La désertification, c'est la dégradation persistante des écosystèmes des zones arides et semi-arides. Et c'est provoqué par les activités humaines et le réchauffement climatique, lui-même d'origine humaine d'ailleurs. À cela peuvent s'ajouter des phénomènes naturels comme les vents. Et l'une des régions particulièrement concernées, c'est donc l'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, dont le Tchad. La Corne de l'Afrique avec la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée voient aussi un pourcentage important de ces terres se dégrader. Et puis on peut regarder du côté de Madagascar, de l'Afrique du Sud et du Botswana qui ressortent également sur une carte datant de 2019, mais ce n'est pas exhaustif.
Ouais, voilà donc pour les pays les plus touchés par la désertification sur le continent africain. Quid des conséquences économiques? Est-ce qu'on parvient à les chiffrer ou est-ce qu'on a des estimations?
Alors c'est assez difficile d'établir ça avec précision. Il y a quelques chiffres qui circulent, mais ils sont souvent assez vieux. Le FIDA, le Fonds international de développement agricole, évoquait en 2010 des pertes de revenus annuels mondiaux de 42 milliards de dollars. Alors pour vous donner une idée de ce que cela représente, Adam, c'est plus de 3 fois le PIB du Tchad. L'un des principaux impacts, en tout cas, c'est sur la production agricole, sur l'élevage et les produits forestiers. Mais les données ne sont pas toujours disponibles ou précises pour les quantifier. Et puis il y a des coûts indirects, encore plus difficiles à quantifier, comme l'impact des nuages de poussière ou la contribution au réchauffement climatique de cette dégradation des sols. Alors désolé Adam, ma réponse n'est pas très précise, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la désertification contribue à l'appauvrissement des populations et augmente l'insécurité alimentaire, car ces terres abîmées sont moins, voire plus productives du tout. Et le pire, c'est que cela risque, il y a un risque de cercle vicieux qui plane. Les populations n'ont parfois pas d'autre choix que de continuer à exploiter des terres qui sont déjà surexploitées, qui ont besoin de repos, car c'est l'une de leurs rares ressources. Mais cela accroît encore le phénomène de désertification.
Reste avec nous encore un instant, Pauline Glaise. Adam a une dernière question à vous poser.
Oui, quelles solutions sont envisagées aujourd'hui pour lutter contre ces phénomènes?
Ah, parce qu'il y a des solutions.
Il y a des solutions. Il existe plusieurs outils. Mettre en place des systèmes coupe-vent, par exemple. Une bonne gestion de l'eau pour éviter l'accélération de la désertification. D'autres techniques sont parfois employées. Le ZAI, c'est une technique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest qui consiste à creuser des trous pour piéger les eaux de ruissellement et les laisser s'infiltrer. On peut aussi essayer de reboiser. L'ONG World Vision promeut la régénération naturelle assistée. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de laisser faire la nature en lui donnant un coup de pouce. Pour ça, il faut repérer des rejets d'arbres et les tailler un peu pour leur redonner de la force, les protéger des brûlis et du bétail aussi. Cela permet à la nature de reprendre ses droits et de recréer un écosystème. World Vision incite à s'appuyer aussi sur la parole des anciens pour savoir où il y avait des forêts ou des arbres qui poussaient pour les repérer et leur permettre de repartir. Selon l'organisation, là où il y a eu des arbres, il peut de nouveau y en avoir.
Voilà, on va terminer sur cette phrase plutôt positive et qui donne de l'espoir. Adam, a-t-on répondu à vos questions ?
Et merci beaucoup et permettez-moi de saluer Marie-France Chatin, la dame qui prévise l'émission Géopolitique chaque samedi et dimanche.
Tout à fait, Marie-France Chatin avec Géopolitique. Merci de votre fidélité, Adam.
Merci beaucoup.
Et continuez à nous écouter à Djamena. À très vite, Pauline Glaize. Et je rappelle aux auditeurs que cet après-midi, comme tous les mercredis, il y a le club de C'est pas du vent. Ce sera à 14h10, temps universel, présenté aujourd'hui par Igor Strauss. Et il sera notamment question de la désertification.
Tout à fait. On
merci.
En reparle tout à l'heure.
À tout à l'heure. 10h20 à Paris, 8h20 en temps universel. Vous écoutez le journal de RFI, nos tranches d'information. Vous souhaitez justement un complément pour mieux comprendre l'actualité. On se fait un plaisir tous les matins de vous répondre. Vous pouvez nous contacter tout au long de la journée. Je vous rappelle que le standard est ouvert toute la journée. Les réseaux sociaux, bien évidemment, et nous sommes connectés quasiment jour et nuit. On lit vos messages, on lit vos questions et on vous répond le matin, donc à 8h10, temps universel. Bonjour Aruna.
Bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs de RFI, appel sur l'actualité.
Vous êtes à Velingara, c'est en Casamance, dans le sud du Sénégal.
Tout à fait.
Et vous avez des questions sur la situation politique en France.
Oui, Juan, j'ai entendu sur votre antenne que les réseaux sociaux s'enflamment autour de la possible démission d'Emmanuel Macron et d'une candidature en 2027. Si Emmanuel Macron démissionne, pourrait-il être candidat dans 3 ans?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur la semaine dernière, rumeur qui courait sur les réseaux sociaux, affirmant qu'Emmanuel Macron serait tenté de démissionner pour se représenter. Bonjour Didier Mauss.
Bonjour.
Ancien conseiller d'État, président émérite de l'Association française de droit constitutionnel. La semaine dernière, en conférence de presse, Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main cette rumeur. Il a exclu évidemment l'idée d'une démission en cas de défaite aux élections législatives. C'est absurde, a dit le président. Mais en imaginant, Didier Mauss, qu'il change d'avis, pourrait-il se représenter dans la foulée?
Écoutez, il y a eu beaucoup de rumeurs ces temps-ci et il y en aura d'autres dans les temps qui viennent. C'est la situation qui l'implique. Bon, il peut évidemment démissionner quand il veut, ça, on ne peut pas lui interdire de démissionner, mais il ne pourra pas se représenter immédiatement comme président de la République puisqu'il aura effectué 2 mandats et que l'article 6 de la Constitution est très clair, on ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Par
si le deuxième mandat ne va pas jusqu'au bout.
Eh bien, il est quand même un mandat. Si vous voulez, c'est comme quand vous voyez quelque part toute heure commencée est due, tout mandat commencé compte. Mmh. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exception à la règle. Ça, c'est très, très clair. Il n'y a pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Bon, et d'ailleurs, M. Macron l'a parfaitement assimilé. Bon, par contre, il pourrait se représenter 5 ans après. S'il y a une nouvelle élection présidentielle, que ce soit à la suite de sa démission ou au terme normal de son mandat en 2027, là, on laisse passer 5 ans et il peut se représenter.
Donc pas de discussion possible, pas d'interprétation différente de la Constitution. Il sera
très clair,
obligé d'attendre 5 ans.
Mais alors, il y a eu effectivement tout au long de l'hiver dernier un certain nombre d'idées, de gens disant il va modifier la Constitution, etc. On peut réviser la Constitution, c'est évident, mais pas en ce moment parce qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale pour voter un éventuel projet de révision.
Ouais. Quel était donc l'intérêt de faire véhiculer une telle rumeur, si la Constitution ne l'autorise pas?
Les rumeurs, c'est très difficile de savoir d'où elles viennent. C'est pour dire M. Macron peut-être a des idées cachées, il n'est pas aussi clair qu'il le dit. Et puis il y a toujours ces vieux complotistes qui disent, on va faire autre chose. Et puis, mais honnêtement, aucun esprit raisonnable n'a émis cette hypothèse.
Merci beaucoup Didier Mauss d'avoir pris quelques instants, ancien conseiller d'État, président émérite de l'Association française de droit constitutionnel. Aruna, bonne fin de journée en Casamance et merci de nous écouter.
Merci beaucoup.
Bonne journée, à très vite, 8h24 justement en Casamance et partout ailleurs au Sénégal. Marius nous rejoint, Marius Trésor, soyez le bienvenu.
Bonjour Monsieur Juan, je voudrais dire bonjour à Geneviève Delrue.
Geneviève Delrue qui a pris sa retraite, Geneviève Delrue, mais j'ose espérer qu'elle écoute encore de temps en temps RFI, on la salue bien évidemment et on l'embrasse très fort. Marius Trésor, vous avez des questions concernant les tensions entre le Bénin et le Niger?
Tout à fait. La semaine dernière, 3 des 5 ressortissants nigériens qui s'étaient introduits sur la plateforme pétrolière ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Mm-hmm. Monsieur Juan, ce nouvel épisode n'entête-t-il pas toute tentative de compromis entre Cotonou et Niamey.
Ouais, 18 mois de prison avec sursis hein, pour usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées. Ces trois ressortissants nigériens avaient été arrêtés il y a deux semaines à Semekpoji. Ils ont été accusés de s'être présentés devant cette plateforme avec de faux badges pour accéder au terminal pétrolier. Bonjour David Morgan, Asokba Metonji.
Bonjour.
Vous êtes analyste en géopolitique. Merci infiniment de prendre quelques instants pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ces tensions qui secouent les deux pays voisins. Est-ce que ce procès est une nouvelle escalade dans la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger ?
Oui, il est clair que ce procès vient plus ou moins compliquer la dynamique de compromis entre les deux pays, mais très loin de l'enterrer, parce que le compromis s'impose de façon stratégique, sociale et même géographique à ces deux États. C'est beaucoup plus une question de temps et en tenant compte des intérêts et des enjeux, il est évident qu'on aura des compromis entre les deux États.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au regard du verdict, 18 mois certes, mais 18 mois avec sursis, est-ce que ça ne peut pas détendre tout de même les relations entre les deux pays ?
Naturellement, vous savez, c'est lorsque le légal se met plus ou moins, on ne dira pas en conflit directement, mais le légal se met en conflit avec le diplomatique. On l'a déjà eu dans le cas du Mali et de la Côte d'Ivoire, où on a eu des condamnations, mais avec une perspective de ne pas vouloir infliger la peine d'emprisonnement aux acteurs.
Oui, puisque il s'agit de sursis. Ça signifie que les trois ressortissants nigériens seront très rapidement, peut-être même dans la journée, je ne sais pas, libre.
Naturellement, effectivement. Et donc, nous nous rendons compte ici qu'il y a des faits juridiques qui ont certainement amené les autorités béninoises à se lancer dans cette procédure judiciaire. Mais de l'autre côté, ces autorités ont le souci du compromis et de l'amélioration des relations entre le Bénin et le Niger. Et donc, ne pourraient pas entériner une condamnation qui viserait à emprisonner ipso facto les concernés.
En tout cas, je rappelle que les frontières terrestres et fluviales sont fermées entre les deux pays. Quelle sortie de crise possible, David Morgan, Asokba Metonji ? Les frontières sont fermées depuis juillet dernier, depuis le coup d'État au Niger qui a renversé le président Bazoum.
Oui, il faut rappeler ici que les frontières sont fermées depuis, mais il y a une dynamique même de la CEDEAO qui a permis au Bénin de rouvrir ses frontières. Mais étant donné qu'il y a une résilience de l'autre côté, il y a des enjeux qui ne sont pas forcément perceptibles à tout le monde, qui peut-être conduiraient les États à se comporter de cette façon, surtout le Niger. Mais la sortie de crise est tout à fait évidente, surtout qu'il y a des enjeux qui impliquent aussi bien la Chine que les deux parties, et qui y a l'intérêt de la société, des populations des deux côtés qui sont en jeu. Donc si les décideurs n'arrivent pas à rapidement prendre les décisions, certainement les populations et les opérateurs économiques ainsi que la Chine interviendront pour encourager la dynamique de compromis.
Oui, la Chine, je le rappelle à tous ceux qui n'ont pas ce dossier en tête, la Chine s'occupe du transport du pétrole nigérien qui arrive donc au Bénin pour être ensuite exporté. Et c'est la Chine qui le transporte sur ses navires. Merci infiniment, David Morgan, Asokba Metonji. Marius Trésor, on a répondu à votre question ?
Oui, monsieur Mezouan, monsieur notre spécialiste.
Et bonne journée à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Vous restez à l'écoute des RFI, bien évidemment, et vous restez connectés. On reste en contact toute la journée grâce aux réseaux sociaux, bien évidemment, et grâce notamment à la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. La chaîne WhatsApp, ce sont, je vous le rappelle, des vidéos pour décrypter l'actualité, mais aussi des sondages, des quiz. Tous les jours, on vous pose des questions et évidemment, on prend toujours autant de plaisir à lire vos réponses. Pour nous rejoindre, si ce n'est toujours pas fait sur la chaîne WhatsApp, vous allez sur l'application WhatsApp, vous cliquez sur Actu, puis sur la petite croix, le plus que vous allez trouver normalement en haut à droite, vous recherchez RFI Appel sur l'actualité et vous validez. Et puis voilà, comme ça on est en contact. Reste avec nous, tout de suite la dernière édition d'Afrique Matin et on revient dans 10 minutes pour débattre de la Guinée et de la classe politique guinéenne. Faut-il assainir prévenir justement les partis politiques.